Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Allez, vous connaissez tous la chanson Dutronc. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Et ben lui, il l'a fait. Pendant près de 20 ans, Jean-Philippe Janssen a été steward chez Air France. À présent, il est passé à une autre chanson, celle de Jacques Higelin. Tombé du ciel. Voilà, Tombé du ciel, dont il a fait le titre du nouveau one-man show qu'il joue au Grand Point Virgule à Paris, du jeudi au dimanche, avant de partir en tournée à travers la France. Tombé du ciel. Bah c'est pas compliqué, c'est irrésistible de tendresse et de drôlerie. Comme lui d'ailleurs. Voilà, alors bienvenue à bord et décollage immédiat avec Jean-Philippe Janssen. Bonjour.
Bonjour. Quelle belle présentation.
Cher Jean-Philippe Janssen, seriez-vous devenu humoriste si vous n'aviez pas d'abord été steward?
Ah non, je dis toujours que mes échecs ont été mes forces et la capacité à rebondir à chaque fois que j'ai vécu quelque chose de dramatique. Le premier, c'est mon petit copain qui m'avait arnaqué. Donc de là, je suis devenu steward et de steward, je suis devenu humoriste. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Mes échecs sont aussi mes forces aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours. Parce que si j'avais pas vécu toutes ces expériences de vie positives ou négatives, ça ne m'aurait pas mené à la scène.
Ouais. Mais steward, c'était pas un échec. On va dire que source, il y a eu quelque chose de terrible qui vous a ruiné. Vous avez été trahi par un ex, et il a fallu donc changer de job, et l'arrivée à Air France était plutôt joyeux.
Ah bah oui, mais c'est ça, c'est un ex qui m'a quitté avec une dette colossale de 90 000 euros, puisque je suis co-emprunteur à sa place, donc je dois régler la dette, donc je perds tout, je perds mon mec, je perds ma maison, et je dois 90 000 euros aux huissiers. Et à ce moment-là, j'ai 22 ans, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?
J'avais même devoir 90 000 euros à seulement 22 ans, c'est lourd.
Au moment où tout le monde pense à faire construire une maison ou faire des bébés, moi je commence à rembourser les huissiers, et je me retrouvais sans rien. Et heureusement, j'avais un dog de langue en poche, allemand-anglais, et c'est la grande période de l'aérien, et c'est une copine, c'est toujours des femmes dans ma vie qui sont des bienfaitrices, c'est une copine qui me dit, bah, moi je me verrais bien steward, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai regardé, effectivement, et il fallait me faire payer la formation, parce que la formation coûtait assez cher, c'était assez onéreux, et donc des amis m'ont aidé, et à ce moment-là, je me souviens, j'ai écrit au gouvernement Jospin, donc tout le monde a des choses à reprocher à Jospin, pas moi. Moi, j'ai écrit au gouvernement Jospin en disant, voilà, je me suis fait arnaquer, parce que j'étais vraiment victime d'une arnaque avec quelqu'un qui avait été reconnu comme tel, et je lui dis, j'ai un vrai projet professionnel, seulement j'ai pas les sous, j'ai le droit à rien, aidez-moi. Et il a renvoyé ça au conseil de région de l'Hérault à l'époque, qui m'a financé ma formation à l'ESMA, l'école des métiers d'aéronautique, et j'ai pu faire ma formation comme ça.
Incroyable.
Donc
merci monsieur Jospin.
Oui, merci, et merci le conseil de région, et merci les gens qui ont cru en mon projet, parce que j'avais le droit à rien, ni au chômage, ni à rien, donc c'était très compliqué à l'époque. Et je suis devenu steward, j'ai commencé une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral, dans le sud de la France.
Et ensuite, ce fut Air France.
Et après, ça fait partie du parcours, on veut Air France.
Alors, Jean-Philippe Janssen, je posais la question parce que, effectivement, steward, c'est déjà presque faire du théâtre. En fait, le steward, il joue son rôle en costume, devant un public, assis devant lui. Donc l'avion, c'était une scène au-dessus des nuages, on peut dire ça?
C'est complètement du théâtre. C'est vous représentez une compagnie, donc quand j'étais en uniforme, j'étais pas Jean-Philippe, j'étais Air France. Et les gens s'adressaient à moi en tant qu'Air France et pas en tant que Jean-Philippe. Donc c'est vraiment un rôle que vous tenez. Et comme au théâtre, il y a un rideau, on tire le rideau, on ouvre. C'est une espèce de jeu de voiture et apéritif, il y a tout un cérémonial, et puis c'est beau, un équipage dans un avion, je trouve ça, c'est une troupe de théâtre. Donc et le public, ce sont des gens qui sont assis devant vous, et qui en plus, c'est un très bon public parce qu'il ne peut pas sortir.
Voilà, exactement. Donc, bon, mais quand même, Jean-Philippe Janssen, vous êtes certainement le seul employé d'Air France qui, avant de devenir steward, n'était jamais monté dans un avion.
Oui, ça c'est sûr que ma première fois dans un avion, dans l'Air Littoral, parce que c'était une petite compagnie, j'étais tout seul avec mes 50 passagers, et tout consistait à faire croire aux gens que je maîtrisais très bien mon environnement, alors que pas du tout. J'avais la théorie, mais pas la pratique. Donc j'avais le costume, on aurait dit un pingouin en dimanche, tu vois, et bon voilà, mais puis j'ai tout appris sur le tas, mais j'ai eu des moments de stress intense intérieur, et en plus il fallait pas que ça se voit, mais parce qu'en plus pour les gens à bord, vous êtes un baromètre, c'est-à-dire que
c'est ça.
La moindre des choses, ils vous regardent, si ça a une turbulence, si ça bouge, on vous regarde pour savoir comment
exactement
vous réagissez.
Donc faut avoir l'air serein, même s'il y a une aile qui flambe.
Mais moi au début, quand ça bougeait à l'intérieur, je me disais, oh non, mon Dieu, on va se cracher, mais dehors, je faisais, oui, tout va bien, vous voulez un verre d'eau?
Bon alors, dans ce nouveau One Man Show, qui est le troisième, hein, Tombé du ciel, que vous jouez donc au Grand Point Virgule à Paris, je le précise, du jeudi au dimanche, eh bien, vous livrez des choses fortes et intimes sur votre enfance, sur votre maman, qui est une muse, j'ai envie de dire, joyeusement encombrante, sur les codes du show business, sur Paris, dans votre regard de ch'ti, sur l'homosexualité, la peur de vieillir sans être aimé, mais toujours, toujours, vous nous régalez des anecdotes de 20 ans, justement, passées pour Air France au-dessus des nuages. En fait, les anecdotes de Stewart, c'est une sorte de banque de données inépuisable.
Ah oui, parce que j'ai vu dans les avions ce que les vôtres ne verront jamais en une vie. C'est-à-dire que, déjà, tous les pays que j'ai fait, que j'ai vu en une vie, c'est une vie de milliardaire fauché, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours logé dans des beaux hôtels, à l'autre bout du monde, on est pris en charge de A à Z, il y a toujours des tarifs spéciaux d'équipage pour faire des excursions, donc j'ai fait des trucs fantastiques que j'aurais pas pu me payer moi-même. Et en plus, dans l'avion, vous avez tout un nombre de gens, je le dis toujours, qui voyagent dans l'avion, qui sont assis les uns à côté des autres, qui dans la vraie vie n'auraient rien à faire les uns à côté des autres, parce qu'il y en a qui s'en vont à un mariage, d'autres qui vont à un enterrement, et pourtant ils sont assis à côté. Et donc ça donne des cocktails détonnants. Ouais. Plus le côté international, les gens qui parlent pas, entre les Russes, les Italiens.
Oui, parce que vous étiez à la fin sur les longs courriers.
Oui, 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 moi je voulais voir le monde. Moi je voulais faire du Paris.
Donc vous avez vécu en jet lag pendant presque 20 ans.
Oui, oui.
Voilà,
oui,
mais
oui.
C'était magnifique. Oui. Mais alors, dites-nous, Jean-Philippe Janssen, est-il vrai que lorsque vous êtes entré à Air France, on vous a demandé de tout faire pour perdre votre accent ch'ti?
Ah, on me l'a pas imposé, mais on m'a fait comprendre dans les standards de service que c'était bien de coller au chic de la compagnie. Et les avions d'Air France sont un peu un morceau de terroir.
Ouais.
Donc c'est la gastronomie, c'est le chic français, l'élégance, les uniformes.
Et l'accent ch'ti, ça faisait désordre.
Bah ça fait pas très première classe. mais donc je les prenais, mais je voyais bien que c'était pas naturel. Et plus j'en allais dans le temps, et puis je me disais, les gens finalement, quand j'ai une pointe d'accent qui revient, ils apprécient. Donc je me suis dit, les gens sont en quête, et encore aujourd'hui ça se vérifie, mais ils sont en quête d'authentique et de choses vraies. Et ils préfèrent qu'on leur dise les choses. Alors j'ai remarqué que quand je mettais une pointe d'accent à ce que je disais, ça donnait un côté chaleureux ou comique à ce que je disais. Donc j'ai désamorcé des conflits grâce à mon accent.
Ah oui?
Oui. Bah par exemple, vous savez, quelqu'un qui perd sa valise et que vous devez aller lui annoncer dans l'avion que sa valise sera pas à l'arrivée. Eh ben, il préférait que j'aille le voir en disant, en général, je disais ça, je disais, parce que les hôtesses vont aller le voir en disant, nous avons perdu votre bagage, nous mettrons tout en œuvre pour réparer ce litige, ouais. Adressez-vous le litige bagage en arrivant, nous allons sûrement le localiser grâce au tracker, tu vois. Moi, je disais, bon, il y a un problème avec votre valise, vous êtes engueulé avec, parce que nous, on part à San Francisco, mais elle est partie à Los Angeles, hein. Alors, elle veut bien revenir demain, mais à condition que vous soyez gentil.
Mais ils pensaient que c'était une caméra cachée.
Non, mais du coup, ils rigolaient. Mais quand même, je leur délivrais l'information et je leur disais, non, mais, et vous voyez que je m'étais mis en quatre aussi pour leur donner l'information et que, effectivement, j'avais l'assurance que leur valise allait être livrée le lendemain. Mais il y a une façon de dire les choses qui est plus amusante qu'une autre et que les gens vous pardonnent.
Mais alors, Jean-Philippe Janssen, en fait, sur les vols long courrier, où vous étiez steward, c'était Bienvenue chez les Ch'tis avant l'heure. Mais quand le film est sorti, le film de Danny Boone en 2008, j'imagine que vous avez dû faire un triomphe auprès des passagers français.
Ah bah oui, déjà, et aussi parce que j'avais eu la chance de faire un jeu télévisé avec Arthur, Apprendre ou à laisser, où j'avais fait pas mal de sessions en plateau.
Vous êtes resté pendant une trentaine d'émissions,
oui,
c'est ça?
Et donc les gens à bord me reconnaissaient. Ah, c'est le steward d'Arthur. Et donc j'avais déjà cette petite popularité, plus le fait que j'étais un leader amuseur à bord. Hein. Les gens venaient pour mes anecdotes. Et comme on a 15 heures de vol, on a le temps de faire du lien, on a le temps de parler aux gens et on a le temps de raconter des histoires. Et on a le temps d'en collecter aussi.
Et j'imagine que les équipages, bah, certains voulaient être absolument avec Jean-Philippe Janssen parce que le vol allait être
Air France,
plus fun.
Air France, il y a une tradition, c'est quand vous partez à la retraite, vous avez un dernier vol, votre dernier vol. Et pour votre dernier vol, vous avez le droit de choisir tout l'équipage. Et donc souvent, on me demandait sur les derniers vols, parce qu'on savait qu'il y aurait de l'ambiance sur le dernier vol. Donc j'ai fait beaucoup de derniers vols à Air France.
Mais alors, Jean-Philippe Janssen, à quoi songez-vous aujourd'hui, désormais, quand vous regardez passer un avion dans le ciel?
Ah ben, quand je vois un avion, je fais « Ah, c'est mon ancien bureau ouais. !» J'ai une nostalgie pour ce métier que j'ai adoré. Je regarde toujours les avions avec beaucoup de douceur, de nostalgie, de bonheur. Le ciel m'a connu avant la terre, c'est ce que je dis toujours. Le ciel m'a connu avant la terre. Et puis, il se passe quelque chose à 10 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que les gens ne sont pas les mêmes parce qu'ils se confient plus facilement. Et donc, il y a des gens qui m'ont fait des confidences qui, à mon avis, ne m'auraient jamais fait au sol s'ils n'avaient pas eu. Donc j'ai vécu des moments très intenses à bord. Et voilà, je dirais simplement que le métier a tendance à changer et que ça, à mon avis, beaucoup moins agréable à faire aujourd'hui comme métier. Le monde aérien a cessé de se dégrader et maintenant les compagnies ont moins d'argent. Notre charge de travail à bord en tant que steward elle est beaucoup plus lourde parce que on a réduit les effectifs. Enfin, je pense que ce métier est très compliqué aujourd'hui. Donc j'admire d'autant plus et je soutiens mes collègues et j'ai une grande nostalgie pour eux et un grand amour pour eux, une grande affection, je veux dire.
Jean-Philippe Janssen. Votre père est d'origine flamande, votre maman d'origine ukrainienne et polonaise. Je voudrais savoir si vous avez toujours de la famille autour de la frontière qui sépare l'Ukraine de la Pologne.
J'ai de la famille en Pologne, oui. Et j'avais de la famille en Ukraine, mais qui a migré vers la Pologne au moment d'eux. Et on s'assure que tout le monde va bien, Et c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué comme situation.
Certainement.
On le voit bien. Et c'est surtout compliqué de savoir quand est-ce que tout ça va s'arrêter et quelles en sont les conséquences sur les vies qui ne sont plus leur vie d'avant. Voilà.
Vous êtes né à Maubeuge, vous avez grandi à Beaufort, un petit village de 900 âmes dans les Hauts-de-France. Grandir, il y a 40 ans de ça, pardonnez-moi de vous le rappeler, mais dans un petit village, est-ce que ça impliquait une vie et une éducation un peu hors du temps ?
Mais sauf qu'à ce moment-là, quand tu es petit, c'est la seule référence que j'ai, donc j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est une éducation hors du temps. J'ai l'impression que c'est la norme, en fait, c'est ça le truc.
Donc,
en plus, je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. Donc, j'ai un peu une place privilégiée parce que je me suis senti toujours un peu gâté, ou en tout cas, pas chouchou favori, mais j'avais plus facilement ce que je voulais. Donc, et je le savais. Donc, je savais qu'avec des bisous, je m'en sortirais toujours.
Il savait comment s'y prendre. Jean-Philippe. Ça n'est pas simple de grandir dans un village quand on comprend, dès l'âge de 7 ans, c'est vous qui l'avez confié, à l'âge seulement de 7 ans, qu'on est plus chaviré par les petits garçons que par les petites filles. On sent le poids des regards.
C'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions parce qu'on se rend bien compte que c'est pas la norme. Et ça me pose problème parce que quand à 7 ans, vous regardez les mecs en slip dans le catalogue de La Redoute et que ça vous fait quelque chose alors que vous n'êtes même pas pubère et que vous savez même pas ce que c'est la sexualité, c'est là que je me suis rendu compte du désordre que ça causait chez moi et ça me troublait. Et donc, j'ai essayé de me rassurer, mais j'ai très vite senti que c'était quelque chose qu'il fallait que je cache, que c'était clandestin, qu'il fallait pas en parler. Je sais pas, je comprends.
Même à cette maman dont vous étiez si complice.
Oui. Je sentais que c'était compliqué. Je sentais que il y avait le poids des normes, le poids des on-dit, des voisins. Je sentais tout ça. Je sais pas. Alors qu'à 7 ans, on n'a pas forcément le discernement nécessaire à tout ça. Mais je savais que ce truc était pas bien, qui était à l'époque, était pas bien, était clandestin.
Mais vous dites. L'homosexualité, on ne choisit pas.
Non, la preuve, à 7 ans, je suis pas pubère, j'ai aucune notion du vice et de la sexualité, et pourtant, je me sens troublé. Et si j'avais pu choisir, j'aurais choisi le chemin le plus aisé à l'époque, c'est-à-dire d'être hétéro, normal, et parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus, et contre lequel j'ai lutté au début, en me disant, c'est pas normal, je suis pas comme les autres, c'est pas normal, il y a un souci. Et donc, pour me rassurer, et pour rassurer sur mon entourage, oui, j'ai eu des flirts, ma première relation sexuelle était avec une fille. Oui, mais je sentais bien que ma voix était ailleurs et qu'en tout cas, c'était pas mon plaisir à moi. Et après, vous résignez au fait que vous ne pouvez pas lutter contre votre nature. C'est tout. Et puis c'est en arrivant, en grandissant, en devenant pubère et en arrivant à la fac surtout, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. Que j'étais pas le seul isolé dans mon village, qu'il y en avait d'autres. Et donc ça vous donne de l'assurance pour traverser les épreuves et le dire et l'affirmer.
Et on est à présent dans une époque où on n'a plus à lutter contre sa nature.
Ouais.
Alors, je continue de dérouler le fil. Très vite, pendant l'enfance, l'adolescence, il vous est apparu que, en fait, l'idole de votre vie, c'était votre maman. Mais alors, pour quelle raison ?
J'admire son côté autodérision. J'admire son côté attirer l'attention. Je crois que je tiens ça d'elle. Ma mère, j'ai toujours vu monter sur les tables aux réunions de famille, aux mariages, et faire rire les gens. Donc, j'admirais ma mère parce que
elle avait commencé une carrière de comédienne.
On n'appelle pas ça une carrière. On appelle ça un hobby le dimanche à la salle des fêtes du village.
Mais tout de même.
Oui, mais c'était pas quelque chose de régulier.
Elle entrait dans la douche de lumière.
C'est quelque chose qu'elle faisait volontiers pour se détendre et comme raconter des histoires drôles dans une soirée. Ma mère, elle captait l'attention avec ses flopées d'histoires drôles à raconter. Donc, elle aimait capter l'attention.
Mais je l'ai vue devant une caméra, elle est étonnante de présence, votre maman, et elle a beaucoup d'assurance.
Oui, d'ailleurs, elle m'a toujours étonné. Et je pense qu'elle vit à travers moi ce qu'elle aurait voulu faire, je pense, dans une autre vie. Et d'ailleurs, quand je joue, quand ma mère est dans la salle, je la fais toujours monter sur scène. Parce que c'est un hommage que je lui rends, et puisque c'est important qu'elle soit. Et je sais qu'elle aime ça. Et j'ai envie de la mettre sous la lumière avec moi, parce que si je fais ça aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à elle.
Il paraît que vous lui avez demandé d'écrire un petit sketch d'à peu près 3 minutes. Elle a choisi le thème.
Oui.
Et elle vous a bluffé la première fois qu'elle a joué sur scène devant une salle pleine.
Oui,
elle qui n'avait en fait jamais été coachée par un metteur en scène professionnel.
Ouais, elle est comme moi et c'est une instinctive, ou je suis comme elle plutôt, je suis un instinctif. Et après tout ça, je l'ai professionnalisé, mais je faisais une semaine à Bobino, ma mère était là tous les soirs et je la voyais bien, son œil brillait, puis elle me disait t'as de la chance, c'est quand même bien ce que tu fais, je t'admire pour ça. Et c'est là que je lui ai dit bah, écoute maman, si ça te dit, écris-moi un sketch 3 minutes, et 3 minutes c'est long, hein. Écris-moi 3 minutes de sketch sur un thème qui te plairait, et je reste à côté de toi sur scène et tu le fais. Et elle est arrivée sur scène avec son sketch, elle avait écrit un sketch sur la difficulté pour une femme forte à être sexy et garder un body, et elle a fait rire tout le monde sans que j'aie eu besoin d'intervenir. Elle a capté l'attention, et là je me suis dit je sais de qui je tiens,
c'est charmant. Donc cet humour, Jean-Philippe Janssen, vous l'avez forgé entre les réflexions cash drôle décalé de votre maman et les sketchs de Muriel Robin. Ouais. Mais alors, j'ai appris une chose surprenante, intrigante, parce que dans la vie vraie, c'est une femme pleine d'empathie, Muriel. On va dire que la première fois que vous avez osé vous adresser à elle pour lui confier votre admiration, vous avez vécu un petit moment de solitude avec Muriel Robin.
Comment vous avez su ça?
Mais je sais presque tout.
C'est des sources. Est-ce que des fois, il ne faut pas garder son rêve ou son idolâtrie pour soi? Parce que je pense que sûrement je lui ai fait peur, parce qu'il n'y a rien de plus qui peut vous faire peur que quelqu'un qui arrive devant vous en mode fan. Donc tout ça n'est pas forcément objectif. Mais là, c'était à l'occasion des grosses têtes, puisque j'ai eu la chance d'être sur le même plateau qu'elle. Et donc je m'adresse à elle en tant qu'autre chroniqueur, puisqu'elle est chroniqueuse aux grosses têtes. Et je lui ai dit, si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez toujours inspiré et que je me suis beaucoup inspiré de vous. Et j'ai des images de moi à regarder en boucle des DVD de Muriel Robin, parce que ça me faisait beaucoup de bien à une époque où ça n'allait pas forcément bien dans ma vie. Donc je garde un souvenir nostalgique de tout ça. Et donc je lui confie ça. Et j'ai un moment, c'est utile, puisqu'elle me dit oui, alors c'est dommage, elle l'a pas rattrapé, mais je lui en veux pas, parce que on a dû tellement lui dire des choses, et puis je vais
peut-être vous être croisés depuis.
On s'est recroisés, on a même collaboré ensemble sur I Love You Coiffure, donc c'est quelqu'un que je connais bien, mais c'était la toute première fois, voilà. Mais tu sais, on est toujours déçus de sa première fois, vous savez. Voilà. Donc j'aime Muriel Robin, qu'elle m'entende, je l'aime.
Voilà, on l'aime, Muriel, on t'aime. Bon, en tout cas, la première fois sur un plateau de télé, c'était pas triste. Vous nous avez rapidement confié tout à l'heure que c'était à l'occasion du jeu donc d'Arthur culte qui était diffusé sur TF1 entre 2004 et 2006, le fameux jeu des boîtes à prendre ou à laisser. Vous étiez présenté comme candidat parce que dans ce jeu, on pouvait gagner des sommes astronomiques sans avoir une culture phénoménale comme dans Caisseron pour un champion. Et vous aviez quand même 90 000 euros de dettes à rembourser parce que un ami qui n'était pas des plus honnêtes s'était enfui avec la caisse du magasin que vous aviez ouvert. Bon, vous étiez criblé de dettes. Vous faites le show sur le plateau. Donc, la prod vous trouve tellement épatant qu'on vous garde pendant 30 émissions. Vous avez finalement gagné combien?
Oui, mais et pour autant, on fait pas ce genre de jeu en disant qu'on a besoin d'argent. Faut pas que ce soit la motivation. Pourtant, j'en avais besoin.
On va dire au départ quand vous êtes présenté.
J'étais criblé de dettes, mais j'avais l'envie parce que je voyais ce jeu qui me plaisait. J'adore les jeux télé. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je ne sais pas pourquoi. J'adore les jeux télé. Voilà. C'est peut-être plouc, mais moi j'adore. Et je regardais ce jeu et je disais quand même, ce jeu c'est toi et ta chance. Parce qu'il y a que des boîtes à ouvrir avec des numéros. C'est le hasard en fait. C'est du hasard. Hein, alors que question pour un champion, je disais toujours, je serais à la question pour un champion. Il aurait fallu super calé. J'aurais gagné 2 dictionnaires. Tu vois. Et là, je regardais ce jeu. Et effectivement, j'y suis allé, mais j'y suis allé avec toute ma bonhomie et sans urgence financière, parce que pourtant j'avais des dettes. Mais je dis, de toute façon, je vais à cette émission. Si je gagne, c'est bonus. Et si je gagne rien, je serai venu.
Oui,
je
parce
serai...
que vous étiez déjà sur ce plateau de télé comme sur scène. Vous étiez dans la lumière et soudain, vous faisiez le show.
Mais j'ai adoré. En fait, c'est à ce moment-là.
C'est
à ce moment-là que je me suis rendu compte du pouvoir que la caméra avait sur moi et moi sur la caméra. Et quand j'ai vu que Arthur venait me voir avant chaque émission, dire, tu me trouves un truc parce que j'avais trouvé une vanne la veille, et donc j'avais toujours la petite pression de trouver la vanne, donc tous les jours je trouvais, moi il y avait mon petit
donc
moment.
Donc c'était presque vendredi, tout est permis, avant l'heure.
C'était ça, et c'est marrant la vie, parce que quand on sait le lien qui unit Arthur à Danny Boone, qui est son meilleur ami, et qu'après je rencontre Danny Boone, enfin, c'est comme si la boucle était bouclée et que tout ça avait un sens en fait.
Alors, j'en reviens à des choses factuelles, comme vous avez gagné la somme que vous deviez rembourser, formidable, votre banquier a été heureux, Jean-Philippe, mais c'est là que s'est posée la question de la suite de votre histoire. Je fais quoi de ma vie ? à présent. Et une amie vous a soufflé, donc, la bonne idée.
Encore une femme.
Encore
toujours une femme.
Femme.
C'est toujours des bienfaitrices dans mon entourage. Et en fait, je suis heureux de mon métier de steward, je m'amuse dans l'avion, j'adore mon métier, mais je vois bien que ça fait quelques années que tout le monde me dit « Jean-Phi, t'as un don pour narrer des histoires, tu fais marrer les passagers, tu nous fais marrer nous en escale, les équipages, vas-y, fais du théâtre. » Mais j'étais pas convaincu que je racontais en vol pouvait intéresser des gens au sol, et que je pensais surtout que c'était corporate et que ça ne s'arrêterait là. Et c'est une copine, hôtesse, Pénélope, que je remercie encore aujourd'hui, qui m'a inscrit à mon insu à un concours d'humoristes.
Extraordinaire.
Qui s'appelle le Printemps du Rire à Toulouse. Et ce concours, on était plus de 600 candidats au départ et j'ai fini finaliste. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose avec ce que je racontais, qu'il fallait peut-être que j'écrive et que je fasse mes premiers sketchs. C'est comme ça que c'est parti, en fait.
Merci, Pénélope. Alors, j'ai 1000 questions à vous poser. On fait une pause vraiment très, très courte et on retrouve tout de suite sur Europe 1, Jean-Phil Janssen.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Il est la preuve qu'on peut faire rire en étant tendre, comme autrefois l'était Bourvil. Je reçois Jean-Phi Janssen, qui joue son nouveau one-man show « Tombé du ciel » au Grand Point Virgule à Paris, avant de partir dès le 11 mai, je crois, dans une tournée qui va vous emmener à travers toute la France jusqu'à la fin de l'été, et qui certainement va se prolonger. Bon, décidément, Jean-Phi Janssen, vos amis IE, en tout cas, sont toujours bien inspirés quand il s'agit d'imaginer la suite de votre histoire, puisque vous venez de nous le confier, c'est une copine qui vous a soufflé de vous présenter à un recrutement de steward, et c'est une autre copine à Air France, qui vous a inscrit à votre insu, je précise, au Printemps du Rire, à Toulouse, qui était un festival d'humoristes. Vous avez réagi comment quand Pénélope, puisque c'était son prénom, vous a montré votre inscription?
Eh ben, je me suis dit, bon, je l'ai pris comme un signe, parce que comme je suis croyant, j'ai la foi, et je suis très sensible aux signes, j'ai pris ça comme un signe, en me disant, bon, eh ben écoute, de toute façon, on l'a fait à ton insu, maintenant c'est fait, vas-y, tu ne perds rien à essayer.
Mais alors, vous êtes mis à écrire des sketchs,
non,
précisément pour ce festival?
Ben non, parce qu'en 20 ans d'aérien, à l'époque, je pensais bien qu'il y avait des anecdotes que je racontais de façon récurrente, puisque je construisais mon histoire, enfin, et je racontais des choses. Donc, j'ai rassemblé plus ou moins quelques anecdotes qui avaient un lien logique. J'en ai fait un sketch, et notamment sur le moment où j'emmène ma mère à Buenos Aires. C'était ça mon premier sketch, puisque j'emmenais ma mère à Buenos Aires avec moi. Et je parlais du choc des deux mondes, en fait. Du choc de ma mère qui était en business, mais tu voyais très bien qu'elle n'avait rien à foutre en business. Parce qu'elle faisait son canevas et son crochet pendant que les hommes d'affaires faisaient de l'ordinateur. Et elle était un peu comme chez elle. Et donc j'ai commencé à raconter un sketch sur ce contraste d'emmener ma mère du Nord dans l'avion avec son accent à Buenos Aires. Et donc j'ai raconté ça et ça a été mon premier sketch.
Et vous êtes arrivé en finale.
Il m'a fait traverser toutes les étapes comme une fusée.
Ça
m'a fait. Voilà, avec ce sketch, je suis allé partout et ce sketch m'a fait tout gagner. Encore une fois, grâce à maman.
Alors, Jean-Phi Janssen, vous avez donc décidé un beau jour, un beau matin, de faire le grand saut et devenir humoriste. Mais pour être programmé dans un café-théâtre, bah, faut d'abord écrire un one-man show. Là, c'est plus un sketch, c'est un one-man show. On vit de quoi pendant qu'on écrit son tout premier one-man show?
Bah, pendant 2 ans, j'ai fait les deux en même temps. Je jouais sur scène et je partais en vol. J'ai fait un burn-out.
Alors, le one-man show, il était déjà écrit quand vous étiez encore steward?
Je l'ai écrit en 6 mois. Il m'a fallu 6 mois pour l'écrire à partir du moment où j'ai fait le Printemps du Rire. J'ai écrit mon one à peu près en 6 mois et après, j'ai été le rodé en scène ouverte. Et puis, un petit théâtre parisien m'a proposé une résidence. C'était The Artist. C'était un petit théâtre de 40 places à Pyrénées, à Paris. Et je jouais là tous les jeudis, vendredis, samedis, pendant quelques temps, des petites résidences. Et c'est comme ça que j'ai peaufiné mes premiers sketchs. Et en tout cas, ce qui ressemblait à un one-man show, mais qui n'en était pas encore un, mais qui au fur et à mesure s'est construit et en est devenu un beau one-man show. Mais pour autant, je travaillais toujours à Air France, à temps plein. Et donc, je faisais les deux.
Et le jour où vous leur avez dit adieu, les amis, c'était formidable. Mais
je leur ai pas dit adieu. J'ai pris un congé sans solde de 2 ans après. Un congé sabbatique de 2 ans. Et donc, ça m'a permis de jouer avec filet en me disant si ça ne va pas, je retournerai dans les avions Air France. Et mes congés sabbatiques, ça veut dire sans solde, c'est sans solde. Et j'ai fait mon congé sans solde pile une semaine après avoir déposé mon congé. J'étais au théâtre, donc je ne vivais que du théâtre. Et c'était au moment des attentats à Paris.
Oh non.
Et donc c'était pile à ce moment-là. Et donc moi, j'étais coincé dans mon théâtre le fameux jour du Bataclan. Et là, je me suis dit waouh. Et après, les salles se sont vidées pendant des mois, hein, parce que les gens avaient peur et qu'on savait pas où on allait. Et après la tournée, mais ça a été compliqué. C'est-à-dire que ça remplissait pas. Je devais de l'argent au théâtre. Vous savez, quand vous commencez, vous produisez tout seul. Hein. Vous avez les flyers, les affiches, les locations du théâtre, c'est tout à votre charge. Et j'étais déjà déficitaire à la banque. En plus, j'avais pas de revenus. Donc ça a été très très compliqué. compliqué. J'ai pas payé mon loyer pendant un an à peu près. Et puis la banque, c'était mon réveil matin. Donc c'était une période qui a été courte, mais qui a été intense. Et après, les choses sont revenues. Et puis le congé sans solde. Mais Air France, pour autant, m'a toujours soutenu. Et les premiers à avoir rempli mes salles de spectacle, c'est quand même bien mes collègues hôtesses et stewards qui remplissaient mes spectacles. Et après, la direction a entendu parler. Donc j'ai fait des petits trucs pour la direction d'Air France qui me demandait de faire un sketch pour le séminaire ou une parodie des démonstrations de sécurité pour un autre séminaire. Ouais. Ils m'ont laissé carte blanche.
Et puis un beau jour, vous étiez au Festival d'Avignon et voilà qu'une collaboratrice de Laurent Ruquier vous repère. Elle vient vous voir après le spectacle et elle vous dit que Ruquier aime beaucoup ce que vous faites.
Et là, la collaboratrice de Laurent Ruquier qui vient me voir et qui me dit ça, Laurent Ruquier aime beaucoup ce que vous faites. Vincent De Dienne avait parlé de moi à Laurent Ruquier, il avait regardé un sketch, notamment mon sketch sur le coming out sur internet, et ça l'avait fait beaucoup rire. Voilà, et donc sur ces sketchs, il avait envoyé Sophie Hasbrouck, sa collaboratrice, me voir et elle me dit ça à la fin. Donc ça m'a fait beaucoup de bien parce que à l'époque, un artiste a besoin d'être assuré et surtout d'avoir de la vie professionnelle.
Et alors, Jean-Philippe Janssen, un destin, ça se joue parfois en quelques secondes. Quand votre portable, un beau jour, se met à sonner en numéro masqué, vous dites, non, là, je ne veux pas répondre, c'est masqué, je ne réponds pas. Le portable ressonne, et là, au bout du fil...
Laurent Ruquier. Et je peux dire que c'était un numéro masqué, qu'à l'époque, moi, un numéro masqué, c'était pas un colis de la redoute, c'était un huissier en général. Et donc là, je prends le risque de décrocher ce numéro masqué, et je reconnais sa voix identifiable entre toutes. Il me dit bonjour, c'est Laurent Ruquier, et il me dit, mais il a fallu convaincre RTL, parce que vous n'êtes pas connu. Il m'a dit, mais je leur ai dit que quelqu'un qui était steward, qui était ch'ti et qui était gay, avait forcément des choses à raconter, venait faire un essai aux grosses têtes. Et c'est comme ça que tout est parti.
Et c'est comme ça que tout est parti. Et dans la foulée, vous avez rencontré Danny Boone.
Oui, et que Laurent Ruquier a organisé cette rencontre. C'est Laurent Ruquier, dans toute sa bienveillance, qui a organisé cette rencontre.
Qui vous a invité, Danny, à jouer dans La Ch'ti de Famille.
Danny venait faire sa promotion pour un film qui s'était Red Dingue, je crois. Et il venait faire sa promotion. Et Laurent Ruquier s'organise pour que je sois sur le même plateau, des grosses têtes. Et Danny Boone ne me connaissait pas, mais il voit bien que je parle. Et Laurent Ruquier se dit, de toute façon, ça va faire une bonne séquence, ça va faire une bonne émission, parce que deux ch'tis sur le même plateau, c'est un peu rendez-vous en terrain inconnu. et donc, c'est ce que ça a donné. Ça a déconné, ça a été une très belle émission. Et en sortant, Danny Boone m'a dit, je ne te connaissais pas, voilà. Et il m'a dit, je serais bien, en gros, je serais bien con de me passer d'un Jean-Philippe Janssen. J'ai écrit mon film, on commence à tourner la semaine prochaine, tout est clôturé. Mais il me dit, je vais écrire une scène, viens faire des essais. Si cette scène me convient, on la garde. Et sinon, on la fait pas, elle n'existera pas, puisque le film était déjà écrit. Et il a rajouté cette scène pour moi. Donc c'était le beau cadeau. Il m'a ouvert les portes du cinéma, il m'a fait ce joli cadeau et il était d'une bienveillance et une pédagogie, mais comme un grand frère. voilà, parce que Nibi me parlait sur le plateau de cinéma comme si j'étais très habitué. Il me dit, mais ça tu connais. Mais je dis, il y a 6 mois je donnais des poulets poissons dans un avion, non je connais pas. et c'est là qu'il m'a pris sous son bras, il m'a dit, alors ça c'est ça. Il m'a tout monté, le travelling, machin. Et bref, et oui, il m'a tout bien expliqué. Et c'était une expérience incroyable.
Jean-Philippe Janssen, elle était présente, votre maman Hélène, elle était présente le jour de la pose, par exemple, de la première lettre de votre nom en néon rouge au fronton de l'Olympia, parce que ça, il paraît que ça fait l'objet d'une cérémonie, il y a un rituel.
Oui, alors c'est un peu légende la cérémonie, parce que les lettres, déjà, faut se lever, c'est à 5h du matin qu'elles sont posées. C'est pas posé en plein après-midi. Et donc, ma mère n'était pas là, mais je lui ai fait voir. Moi, j'étais à 5h du matin à la pose de mes lettres à l'Olympia et j'étais
Boulevard des Italiens.
Exactement.
Sur le trottoir d'en face. Oui. À filmer.
À voir les lettres se poser au fur et à mesure. Et là, c'est là. En fait, c'est con, c'est que des néons, mais c'est l'aboutissement de quelque chose. Et là, je me suis dit, enfin, c'est matérialisé par ces lettres. Ma carrière est matérialisée aujourd'hui et j'ai réussi. Voilà, c'était. Et puis en plus, j'imagine toujours. Je suis ému en le disant, mais j'imagine toujours la réaction de mes parents en voyant ça. Je voulais, mes parents, avec le parcours qui est le mien et le parcours qui est le leur, et avec les difficultés que toutes les familles affrontent, mais la mienne plus particulièrement, c'était une récompense de voir leur nom sur cette façade de l'Olympia. Leur nom. Je voulais qu'ils soient fiers de voir leur nom. Janssen, écrit en gros sur la façade de l'Olympia. C'était pas pour moi. C'était d'ailleurs quand j'ai commencé, je m'appelais juste Jean-Phi. Et quand j'ai commencé à émerger, à être bien connu, j'ai fait rajouter Janssen sur les affiches pour que mes parents voient leur nom. Je voulais qu'ils voient ça de leur vivant.
C'est une belle personne, ce garçon. Je le dis à mes amis auditeurs d'Europe 1 qui ne nous voient pas en train de converser. Il a les prunelles, ses yeux bleus magnifiques qui sont embrumés, par l'émotion. Jean-Philippe Janssen, vous avez fêté il y a 3 mois un âge que certains considèrent comme une étape symbolique, 50 ans. Alors, vous en faites carrément 15 de moins. Mais dans votre one-man show, Tombé du ciel, eh bien, entre deux salves d'éclats de rire, on sent poindre quand même chez vous une petite inquiétude face au temps qui passe. Vous les avez fêtés comment et avec qui? ses 50 ans.
Ah, on m'a organisé une belle fête surprise avec tous mes amis pour mes 50 ans. C'est j'ai rien organisé, mais il y avait tous mes amis, donc mes amis d'enfance, mes amis toujours, qui ont jalonné mon parcours. Et puis mes nouveaux amis, Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, il a passé une tête. Voilà, beaucoup de gens sont passés et ça m'a touché. Laurent Ruquier, bien sûr. Et voilà, donc et en plus c'était un mix de tous mes univers en fait, de mon milieu familial, de mon milieu social d'avant, de mon milieu aéronautique, de mon milieu Star System, et tout ça c'est agréablement mélangé dans une osmose parfaite. Donc pour mes 50 ans, je pouvais pas rêver mieux. Et puis 50 ans, c'est un peu l'heure des bilans. C'est on arrive et puis on a un peu plus ancré. En tout cas,
c'est pour ça que le spectacle est riche, particulièrement ce spectacle Tombé du ciel.
Bah, parce qu'on sent que c'est 50 ans, c'est le milieu de la vie, voilà. Et on n'a plus de temps à perdre, voilà. Et donc on va à l'essentiel. J'arrive aujourd'hui à dire non, ce que je n'arrivais pas à faire à 40. Et aujourd'hui, je suis ici parce que mon temps est compté, voilà.
Son temps est compté.
C'est une façon de parler, mais c'est-à-dire que l'horloge n'est plus la même. Donc j'avais besoin de ça. Et puis j'ai besoin de plus de sincérité à 50 ans. J'ai plus envie de m'emmerder avec des faux semblants.
Oh, que vous avez bien raison. Alors Jean-Philippe Janssen, Danny Boone vous a dit un jour que la vraie crédibilité dans le métier d'humoriste vient quand on réalise son propre film. J'imagine que c'est dans les tuyaux.
La vraie crédibilité dans le cinéma, ouais. Je faisais part de la difficulté et il m'a dit que, et je m'en aperçois, le milieu du cinéma n'aime pas trop le milieu des humoristes. Je sais pas, il y a une espèce de truc où
donc alors, vous voulez dire que pour, pas forcément un humoriste, mais un comédien, justement, qui excelle dans l'art de la comédie, tant qu'il n'a pas réalisé son propre film à lui...
C'est ce qui se dit. Je ne dis pas que c'est une vérité que je détiens, mais je m'aperçois que soit Danny Boone, Dubosc, ces gens-là ont une valeur ajoutée à partir du moment où ils ont fait leur film. Et Danny Boone m'a préconisé ce conseil en disant « Quand tu feras ton film, tu seras plus légitime. » Parce que, voilà, parce que peut-être que le cinéma a du mal à se transposer ou à se projeter avec moi en se disant que finalement Jean-Philippe Janssen ne serait capable que faire du Jean-Philippe Janssen et de ne peut faire que du comique et peut faire que de l'exubérant avec l'accent ch'ti sans voir le... Et par ce deuxième spectacle, je pense aussi par la profondeur que j'ai apportée dans ce deuxième spectacle, j'ai voulu prouver aussi qu'il y avait une dimension pas dramatique, mais que je n'étais pas que un fer de lance ch'ti qui hurlait avec mon accent. Voilà.
Mais bien sûr.
Donc je voulais montrer ça. Et d'ailleurs, Sandrine Bonner, avec qui j'ai eu l'occasion de sympathiser au Festival du film d'Angoulême, parce que je l'ai rencontré et que c'est toujours lui devenu une amie, mais m'a toujours dit, moi je ne te vois pas dans une comédie, je te vois dans un film dramatique.
Alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Vous avez choisi quel thème pour ce qui sera votre premier film en tant que réalisateur et auteur?
Alors c'est pas autobiographique, c'est inspiré de ma vie. Et disons que j'ai pris un des sketchs de mon premier spectacle que j'ai décliné en espèce de road movie comédique, mais avec une profondeur. Donc il y a ma mère. Ça se passe...
Votre maman va faire ses débuts de comédienne au cinéma?
Non, quelqu'un va jouer ma mère.
À quelqu'un va jouer votre... va jouer Hélène, ça va pas lui plaire,
alors,
ça.
Alors,
hein,
mon casting rêvé, ce serait d'avoir Yolande Moreau, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et à qui j'en ai touché mot. Et voilà, et Sandrine Bonner sera dedans aussi, puisqu'elle m'a donné son 8 principes. Mais après, voilà, comme je suis superstitieux, je ne dévoilerai rien de plus sur le pitch, tout ça, mais je pense que, vu tout ce qui se fait, tout ce que je vois, je me dis que je suis dans l'air du temps, et que je tiens un truc, et qu'en plus, si tu rajoutes à la comédie de la profondeur et de la sincérité, ça ne peut être que joli.
Alors Jean-Philippe Janssen, pour rester libre dans la création, depuis quelques années déjà, vous avez monté votre propre boîte de prod, qui présente d'ailleurs le nouveau one-man show Tombé du ciel. Ouais. Est-ce que vous allez devenir un homme d'affaires qui coproduira son premier film?
Peut-être. En tout cas, l'âge où ça m'est arrivé, c'est-à-dire de commencer cette carrière artistique, j'ai déjà une vie avant, et en plus j'ai déjà une vie qui a été faite de déboires. Donc, fort de tous ces déboires, j'en ai tiré des leçons, et je me suis dit, je vais monter ma boîte. Et déjà mon premier spectacle, je le coproduisais. Le deuxième, j'ai décidé de partir plus seul parce que je me sens plus autonome, et j'ai appris beaucoup de choses du premier, donc je me sens plus la légitimité de pouvoir le produire. Et j'ai ma boîte qui a l'air insolite puisqu'elle a déjà plus de 7 ans d'existence. Donc je me suis dit, on sait faire. Fort du premier spectacle, je me suis dit, je sais faire pour le deuxième. Donc après, peut-être que je me ferai accompagner pour d'autres choses, pour des salles plus grandes, ou parce que des fois, il faut aussi des moyens et des gens qui y investissent. Et pour le film... Oui, peut-être que ça me servira à ça, et que je coproduirai mon film.
Formidable.
Ça serait bien, oui.
Mais alors, est-ce que vous pouvez nous décoder le nom de vos productions? Parce que quand même, je coupe discret.
Alors, je vais tout vous expliquer.
Ah oui.
Et enfin, vous allez percer ce mystère. Ça s'appelle Schkut. Schkut discret.
Schkut discret.
Parce que, en fait, quand j'ai commencé mon premier spectacle, il y a quelqu'un qui est mon associé aujourd'hui, mais qui s'occupait de moi et qui n'avait pas le droit de s'occuper de moi parce qu'elle travaillait dans une grosse société qui exigeait qu'on lui soit dévoué, en tout cas, l'exclusivité. Donc, elle ne pouvait pas, normalement, s'occuper de moi et m'aider à me développer. Donc, il a fallu qu'elle demande une dérogation à sa société qui l'employait pour qu'elle puisse s'occuper de moi. Mais bon, tout le temps, elle n'avait pas de réponse pour cette dérogation, c'est-à-dire à peu près un an pour avoir la réponse. Il fallait qu'on soit discret sur le fait qu'elle collaborait. Et donc, dans le sketch où je suis avec ma mère, à la fin, quand je dis à ma mère que j'emmène ma mère en vol et qu'il faut qu'elle soit discrète, je dis « Schkut, maman, discrète ». Et ma mère a fait « Ouais, discrète ». Et donc, ça a résonné, donc on a appelé ça « Schkut, discrète ».«
Schkut, discrète
voilà. ».
C'est génial. Alors voilà, du jeudi au dimanche, eh bien le grand point virgule à Paris est complet grâce à votre nouveau One Man Show « Tombé du ciel ». One Man Show que vous jouerez à Bordeaux les 18 et 19 mai, à Aix-en-Provence le 25 mai, à Châlons-en-Champagne le 1er juin, à Villeneuve-sur-Lot le 27 juin et puis au festival de Tournon-sur-Rhône le 24 août.
Ah oui, ça va finir à Hollywood.
Ça va finir à Hollywood,
oui,
attention. Il faut que Hélène prévoie sa tenue pour le tapis rouge des Oscars. Je vous embrasse.
Merci tellement.
À très bientôt. Ouais. Bisous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h-14h sur Europe 1.